VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du jeudi 15 novembre 2018. En direct de Washington, Idrissa Seloudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Au Gabon, le vice-président a été autorisé hier à présider un conseil des ministres.
Profonde préoccupation de la France après la diffusion d'une vidéo des ravisseurs de Sophie Petronin.
En République démocratique du Congo, plus de 25 000 cas de choléra, dont 857 décès, ont été enregistrés depuis le début de l'année.
Au Maroc, début hier à Casablanca, du procès en appel des leaders du mouvement du IAC.
Ici, aux États-Unis, les incendies en Californie ont fait au moins 59 victimes, selon le dernier bilan.
CNN, soutenue par Fox, la chaîne favorite du président Donald Trump, s'oppose à la Maison-Blanche devant un juge.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Au Gabon, dont le président Ali Bongo est hospitalisé depuis 3 semaines, la Cour constitutionnelle a autorisé hier soir le vice-président à présider un conseil ministériel suite à une saisine du Premier ministre Emmanuel Issoze Ndonde. La Cour a également ajouté un paragraphe à un article de la Constitution disant, je cite, qu'en cas d'indisponibilité temporaire du président, certaines fonctions peuvent être exercées selon le cas, soit par le vice-président de la République, soit par le Premier ministre, sur autorisation spéciale de la Cour constitutionnelle. Fin de citation.
Négociations hier entre la France, la Russie et les États-Unis pour tenter de dépasser leurs différends sur les efforts de paix en Centrafrique, alors que le Conseil de sécurité doit se prononcer d'ici minuit jeudi sur la prorogation de la MINUSCA, la force onusienne dans ce pays. La Russie et les États-Unis ont émis des objections sur un projet du texte français, qui verrait les casques bleus appuyer les forces nationales nouvellement formées dans leur déploiement à travers le pays. Ce texte pointe également du doigt les récentes tentatives russes de négocier des accords de paix en Centrafrique en spécifiant que l'initiative de l'Union africaine était le seul cadre possible pour une solution.
La France a fait part hier de sa profonde préoccupation après la diffusion d'une vidéo des ravisseurs de la Française Sophie Petronin. Elle a été enlevée il y a bientôt 2 ans de Gao dans le nord du Mali. Le point avec Morgane Guiriec.
Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Agnès van der Moel, a exprimé sa profonde préoccupation suite au communiqué publié le 11 novembre par les ravisseurs de Madame Sophie Petronin. Sur cette nouvelle vidéo, l'otage n'apparaît pas physiquement, mais ses ravisseurs évoquent la dégradation de son état de santé. Nous prenons au sérieux leur affirmation que l'état de santé de notre compatriote s'est récemment dégradé et exprimons notre inquiétude, a ajouté la porte-parole du Quai d'Orsay. Les autorités françaises insistent sur la nécessité de sa libération immédiate pour des raisons évidentes d'humanité. Sébastien Chado Petronin, fils de l'otage, dit craindre pour sa vie. Sur de précédentes images reçues à la mi-juillet, Madame Petronin, 73 ans, apparaissait très fatiguée, le visage émacié. Elle en appelait au président Emmanuel Macron et disait redouter de devenir une otage sacrifiée après avoir été une otage oubliée. Elle a été enlevée le 24 décembre 2016 à Gao, dans le nord du Mali, où elle dirigeait une association d'aide aux orphelins.
En Côte d'Ivoire, plusieurs centaines de personnes ont participé hier à une journée inédite de rencontres entre des militaires et la population civile dans une des grandes casernes de Boaké, deuxième ville du pays, considérée comme la capitale des mutineries de janvier et de mai 2017. Ce dialogue civilo-militaire avait été organisé par une fondation basée à Bonn qui œuvre principalement dans les domaines de l'éducation civique et politique.
En République démocratique du Congo, plus de 25 000 cas de choléra, dont 857 décès, ont été enregistrés depuis le début de l'année. Selon l'OMS, l'épidémie est caractérisée cette année par une réactivation de cas dans les anciens foyers de 2017 et par la résurgence de nouveaux foyers dans les différentes provinces. Des détails avec Irénée Herman-Ungbo.
Les populations les plus affectées sont celles qui vivent dans les zones non loin de grands cours d'eau, dans les zones où il y a un manque d'eau potable pour les populations et des problèmes d'assainissement. Selon l'OMS, au moins un cas de choléra a été signalé dans 21 des 26 provinces du pays. Les provinces les plus affectées par la recrudescence de la maladie sont celles du Kasaï oriental, de l'Omami, du Sud Kivu, de la Tangaïka et du Haut-Katanga. Les experts de l'organisation indiquent que plus de 15 700 cas en moyenne sont attendus pendant les 6 prochains mois en RDC. La vaccination des populations à haut risque est dans le plan de riposte. Plus de 6 millions de personnes sont ciblées dans les zones à haut risque avec 2 doses de vaccin OCV d'ici 2020. Outre le choléra, la RDC fait face à sa 10e épidémie de fièvre hémorragique Ebola dans les provinces du Nord Kivu et dans l'Ituri, qui a fait 212 morts depuis sa déclaration le 1er août.
Au Maroc, le procès en appel des leaders du mouvement du Irak ayant agité le Nord en 2016-2017 a débuté hier à Casablanca. Ils avaient été condamnés en première instance à des peines allant jusqu'à 20 ans de prison, Abdourahmane Dia.
Durant la première audience devant la chambre criminelle, ils ont scandé des slogans promettant de ne jamais trahir leur mouvement Hirak. Maître Mohamed Aïd Benasser, un de leurs avocats, a dit être pessimiste sur la procédure d'appel en regrettant ce qu'il appelle l'absence de signaux positifs. L'un des avocats de l'État a pour sa part justifié les peines prononcées en première instance par les dégâts matériels et les blessés chez les forces publiques pendant les manifestations. 42 prévenus ont été appelés tour à tour devant les juges. Tous avaient été arrêtés dans la province d'Al-Hoceima, dans le nord du pays et épicentre du Hirak, et transférés à Casablanca où ils ont été incarcérés. Le leader du mouvement Nasser Zefzafi et 3 de ses compagnons ont été condamnés à 20 ans de prison ferme pour complot visant à porter atteinte à la sécurité de l'État. 11 d'entre eux ont été graciés fin août par le roi Mohamed VI, en même temps que 177 autres personnes liées au mouvement et condamnées par d'autres tribunaux. La protestation populaire a été déclenchée par la mort en octobre 2016 d'un vendeur de poissons broyé dans une benne à ordures en tentant de s'opposer à la saisie de sa marchandise.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Ici, aux États-Unis, la chaîne CNN a demandé hier à un juge d'ordonner à la Maison-Blanche de rendre l'accréditation d'un de ses journalistes privé d'accès après un échange houleux avec Donald Trump. Notre confrère a reçu au passage le soutien de plusieurs médias, dont la chaîne préférée des conservateurs et du président, Fox News. Le juge Timothy J. Kelly, nommé par le président, a annoncé après 2 heures d'audience dans un tribunal fédéral de Washington qu'il rendrait sa décision cet après-midi.
Le président français Emmanuel Macron, réagissant mercredi au tweet « c'est très agressif » de son homologue Donald Trump, a répliqué qu'entre alliés, on se doit le respect. À peine rentré de Paris, où il avait célébré la paix avec les autres dirigeants du monde, Donald Trump s'est vivement attaqué mardi à la France et à Emmanuel Macron, dont il a raillé la très faible cote de popularité. Dans une série de tweets, il a de nouveau attaqué sa proposition de créer une armée européenne. Nous reviendrons sur ces échanges entre messieurs Trump et Macron en seconde partie de cette édition.
Ici aux États-Unis, le secrétaire à la Défense Jim Mattis était en visite hier à la frontière avec le Mexique, près de la ville de Donna au Texas. Les troupes américaines y ont établi une base, non loin du point de passage frontalier. Des détails avec John Lyndon.
Lors de cette visite, Jim Mattis a défendu le déploiement de milliers de soldats à la frontière mexicaine, affirmant que la mission était absolument légale et justifiée. Pourtant, la décision du président Donald Trump d'envoyer des troupes américaines à la frontière mexicaine continue de créer la controverse. Les critiques la qualifient de coup politique pour pousser les électeurs républicains aux urnes. Ils se sont moqués de la comparaison faite par Trump des caravanes des migrants d'Amérique centrale, femmes et enfants compris, à une invasion. Jim Mattis a rejeté ces critiques et déclaré que le déploiement était une bonne chose. Il est très clair que le soutien à la police des frontières ou à la patrouille des frontières est nécessaire dès maintenant, a déclaré Jim Mattis. Pour le président américain, il est question de renforcer la sécurité des frontières dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine. Les troupes américaines déployées ne sont pas censées interagir directement avec les migrants. La plupart ne sont pas armées et ne sont chargées que des tâches qui soutiennent les gardes-frontières, notamment la construction de logements temporaires.
États-Unis toujours, les incendies qui ont fait au moins 59 morts selon un nouveau bilan continuaient mercredi à ravager la Californie et les autorités tentent de retrouver quelques 130 personnes toujours portées disparues. Les restes de 8 nouvelles victimes ont été retrouvés mercredi à Paradise, petite ville du Nord frappée de plein fouet par les flammes le 8 novembre, et ce qui porte le total à 56, a annoncé le shérif du comté de Butte. Au sud, près de Los Angeles, le Woolsey Fire a ravagé près de 40 000 hectares et fait au moins 3 morts.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nanit Talani.
Le gouvernement nigérian s'est fixé l'objectif d'atteindre 10% du marché mondial de la fourniture de gaz naturel liquéfié. Quatrième exportateur mondial du combustible, le Nigeria se concentre sur l'approvisionnement en gaz pour soutenir une croissance rapide de sa production électrique et se repositionner comme le centre régional de l'industrie gazière avec son gigantesque projet visant à faire passer la production nationale de gaz naturel de 22 à 30 tonnes métriques par an d'ici 2024. La Tunisie reçoit 170 millions de dollars de la Banque africaine de développement et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. L'accord prévoit la mise en œuvre d'un programme d'assainissement des petites communes de moins de 10 000 habitants pour améliorer les conditions d'hygiène, de santé et d'environnement. Ce programme permettra aussi de pérenniser les ressources en eau et de développer des options pour s'adapter au changement climatique. Terminons avec la banque africaine Standard Bank qui va supprimer 526 emplois dans le cadre de la restructuration de sa division des technologies de l'information. Standard Bank, qui emploie 54 000 personnes en Afrique, a précisé qu'une partie seulement des employés sera licenciée. Des postes traditionnels dans la division technologie de l'information seront supprimés, mais plus de 180 nouveaux postes seront créés dans de nouveaux domaines tels que l'ingénierie cloud, l'analyse des données et la cybersécurité.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Ligue des Nations ce soir en Europe.
L'Espagne peut se qualifier pour le tournoi final en cas de succès chez la Croatie, finaliste de la dernière Coupe du Monde. Mais les Croates voudront laver l'affront de leur déroute 6-0 à l'aller. L'autre affiche de la soirée oppose la Belgique à l'Islande. La sélection de Roberto Martinez ne peut pas se qualifier pour le Final Four, même avec une victoire car elle compte un match de moins que la Suisse. Toutefois, un nul face à la Nati le 18 novembre suffira au Diable Rouge pour se qualifier pour le tournoi final.
Wayne Rooney fera son dernier adieu à Wembley ce soir.
Ce sera lors de la rencontre amicale entre l'Angleterre et les États-Unis. À 33 ans, l'ancien capitaine de la sélection anglaise s'est dit honoré de disputer son 120e et dernier match sous le maillot des Trois Lions. En 119 sélections, il a marqué 53 buts pour l'Angleterre. Rooney a pris sa retraite internationale en août 2017, après avoir notamment participé à 3 Coupes du Monde et 3 Championnats d'Europe des Nations. L'international anglais, évoluant actuellement avec DC United, dit n'avoir aucun regret d'avoir accroché les crampons avant la Coupe du Monde 2018.
Yacine Brahimi renonce à jouer contre le Togo.
Oui, les Fenech devront se passer de l'un de leurs cadres pour la rencontre contre les Éperviers à la faveur de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2019. Annoncé incertain, le milieu offensif du FC Porto a finalement déclaré forfait et a été libéré hier. Le défenseur central Rafik Halish est lui aussi incertain, tandis qu'Aïssa Mandi est suspendu. L'Algérie, qui reste sur une défaite face au Bénin lors de la précédente journée 1-0, devra impérativement remporter le match face au Togo pour ne pas compromettre ses chances de qualification.
Nouvelle violence lors d'un match en Algérie.
Une quarantaine de personnes ont été blessées lors des violences à l'issue d'un match de première division de football à Alger, d'après la police algérienne qui dit enquêter sur de possibles violences policière. La défaite 0-1 à domicile du Mouloudia Club d'Alger face à l'USM Bel Abbès a provoqué la colère des supporters algérois, dont certains ont arraché les sièges du stade avant de les jeter sur le terrain ou contre des policiers. 42 supporters ont été arrêtés pour troubles à l'ordre public, port d'armes blanches, entre autres. NBA, pour finir avec vous Idrissa, les résultats de la nuit dernière.
Orlando et Philadelphie 111 à 106, Washington et Cleveland 119 à 95, Boston et Chicago 111 à 82, Miami et Brooklyn 120 à 107, Détroit et Toronto 106 à 104, Memphis et Milwaukee 116 à 113, Minnesota et la Nouvelle-Orléans 107 à 100, Oklahoma City et New York 128 à 103, Dallas et Utah 118 à 68 et Phoenix et San Antonio 116 à 96.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Sédoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En République démocratique du Congo, et nous y revenons après la volte-face de Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, un collectif de candidats à la présidentielle qui n'était pas associé à la désignation de Martin Fayoulou comme candidat unique de l'opposition, a présenté avec la coalition Lamouka une requête conjointe demandant à la CENI la radiation d'Emmanuel Chadari de la majorité présidentielle. La coalition Lamouka, mise sur pied à Genève, soutient la candidature unique de M. Fayoulou. Eddie Isango a joint l'initiateur du collectif, le candidat Théodore Ngoyi.
J'ai suivi tout à l'heure M. Félix qui disait qu'ils avaient fait un pacte et que celui qui allait violer ces pactes ne méritait plus d'être considéré. Et d'ailleurs, ils ont signé un acte d'engagement que la Fondation Kofi Annan a publié, dans lequel ils affirment notamment qu'ils mettraient fin à leur carrière politique s'ils violaient d'une manière ou d'une autre l'accord. Donc, qui lisait ces comportements, M. Kamerhe a écrit tout un ouvrage pour nous faire croire à nous Congolais que c'est Kabila ou rien d'autre. Donc aujourd'hui, ils sont dans l'opposition et qu'ils tournent les Kazakhs, ça ne nous étonne pas. Mais s'agissant de la désignation de M. Martin Fayoulou, que je connais personnellement, dont j'apprécie les qualités d'homme d'État, sa désignation est biaisée. Et trois autres qui ne sont pas candidats plus impliqués. Est-ce que c'est juste de pouvoir dire que c'est l'opposition congolaise qui a choisi Martin Fayoulou? C'est faux ça, c'est pas vrai.
Vous êtes allé à la CENI avec certains membres de la coalition Lamouka. Voudrait-il dire qu'on peut s'attendre à un rapprochement ou à une nouvelle coalition? Ou allez-vous soutenir Martin Fayoulou, vous aussi?
Il y a plusieurs hypothèses de travail. On va se rencontrer. Est-ce qu'on va dire, écoutez, M. Fayoulou, nous allons vous adopter? Ou bien on va dire, M. Fayoulou, nous avons encore la possibilité de choisir notre candidat commun? Ou bien nous passons au vote s'il arrive qu'on vous choisisse, vous, tant mieux? Ou bien, c'est l'hypothèse de départ qui me semble la plus crédible. Ou bien nous dirons, écoutez, nous nous assemblons contre la machine à voter, contre les élections qui ne sont pas crédibles, pour obtenir que cette machine soit écartée, obtenir que les fichiers soient nettoyés. Mais une fois cet objectif atteint, chaque candidat va devant les peuples.
On est aujourd'hui à quelques jours du début de la campagne et la CENI continue à déployer des matériels pour l'élection. Qu'allez-vous faire?
La campagne est prévue le 22, mais il n'y aura pas une campagne électorale tant qu'on n'a pas enlevé la machine à voter. Nous allons utiliser ce moment pour dire au peuple congolais, voilà, nous constatons que monsieur ici s'entête avec le président Kabila, ils utilisent les véhicules de l'armée, ils nous menacent. Nous n'allons pas accepter cette élection avec la machine à voter, avec les fichiers corrompus, pour que demain, la communauté internationale nous dise vous avez participé à cette élection, eh bien elle est crédible.
Et vous demandez en même temps la disqualification de monsieur Ramazan Chadari.
Monsieur Ramazan Chadari a nommé une équipe de propagande. Dans cette équipe, il y a notamment le premier ministre en fonction. Il y a le ministre de la sécurité qui est censé me sécuriser, moi, candidat président de la République. Il y a monsieur Moukoko Samba, professeur d'université, un économiste que j'ai toujours apprécié, qui est maintenant à mon attrape. C'est une violation des dispositions de l'article 36 de la loi électorale. Et cette loi électorale donne compétence à la CENI, à la demande de toute personne intéressée ou d'un candidat ou de toute autorité administrative, de radier les candidats qui utilisent les moyens de l'État et les personnels de l'État.
C'était le pasteur Théodore Ngoyi, candidat à la présidentielle du 23 décembre prochain en RDC. Et il est l'initiateur d'un collectif regroupant quelques-uns de ses pairs.
Raïssa Girondin avec vous. Dans ce Washington Forum, retour sur le coup de théâtre survenu au sein de l'opposition en RDC après l'annonce d'un accord désignant Martin Fayoulou comme candidat unique de l'opposition. Cet accord, signé à Genève, a volé en éclats en moins de 24 heures sous la pression des cadres et des militants de leur parti. Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe ont annoncé leur retrait. Quelle analyse faire de ce revirement? Que vaut l'accord de Genève sans l'UDPS et l'UNC? Quelles sont les chances de l'opposition congolaise à la présidentielle de décembre? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Rendez-vous ce jeudi à 19h en temps universel.
Cameroun, des artistes ayant soutenu le président Paul Biya sont boycottés par un mouvement de la diaspora camerounaise dénommé Brigade anti-Sardinard. Le mouvement a vu le jour après la victoire de Paul Biya et il reproche à ses artistes d'avoir pris part à un concert organisé en fin de campagne électorale par le parti au pouvoir. De Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Jules Tap.
Mon choix est unique et il reste à vie.
Ama Pierrot est artiste musicien et réside au Cameroun. Il s'est toujours produit jusqu'ici hors du pays sur invitation de la diaspora camerounaise. Le 6 octobre dernier, l'artiste Ama Pierrot a pris part à Yaoundé au concert de fin de campagne du président Paul Biya.
J'avais des trucs au Canada, d'autres aux États-Unis, d'autres en France. Tout ça là s'est annulé parce que les gens trouvent que nous on est allé supporter Paul Biya. Ok, il n'y a pas de problème.
Lady Bones, Coco Argenté, Catino, Karens Fotso. Les humoristes Moustique le Charismatique et Kaiser Show avaient eux aussi répondu à l'appel lors de ce concert de soutien à Paul Biya. Au moins, 4 spectacles de certains de ces artistes ont été annulés par la police en France et en Allemagne depuis le 31 octobre dernier. Le mouvement Brigade anti-Sardinard a, à chaque occasion, organisé des sittings de protestation contre ces spectacles.
Il n'y a plus de concert pour vous en Europe, en Amérique, au Canada, même en Afrique. Nous allons prendre les dispositions là-bas.
Emmanuel Kemta est l'un des activistes de la Brigade anti-Sardinard.
Le pays souffre. Et vous vous amusez comme ça? Vous partez chanter pour Paul Biya parce qu'il a donné de l'eau au Cameroun? Parce qu'il y a les routes au Cameroun? Parce qu'il y a l'électricité au Cameroun? C'est pourquoi?
Des menaces à caractère politique que ne digère pas l'artiste Écho du Palais, auteur-compositeur d'un célèbre chant à l'honneur de Paul Biya.
Paul Biya, Paul Biya, notre président.
L'artiste Écho du Palais est aujourd'hui l'un des administrateurs de la Société nationale camerounaise de l'art musical, SONACAM.
Longue Longue a supporté les autres candidats. On n'a pas lancé les pierres à cela parce que nous sommes dans le contexte démocratique.
Le boycott de certains artistes camerounais par la Brigade anti-Sardinard ne laisse pas indifférent Jean-Pierre et Don Compandré, résident de Yaoundé.
Cette situation comme ça, c'est ça qui peut amener les conflits. Il est vrai que les Camerounais souffrent dans la colère, ils prennent certaines décisions, mais ce n'est pas bien.
Si les artistes aujourd'hui disent qu'ils tournent le dos au RDPC, ils vivent dans le pays du RDPC. S'ils disent qu'ils tournent le dos à ceux qui sont en Europe, ils sont appelés à voyager d'une manière ou d'une autre, puisqu'il n'y a rien de profitable pour l'artiste ici au pays. Donc c'est très grave cette situation-là.
Narcisse Mouelé-Kombi, le ministre camerounais de la Culture, s'est exprimé sur cette question. Je condamne les 10 agissements dans la mesure où ils constituent une atteinte grave à la liberté d'opinion et d'expression, a-t-il déclaré. VOA Afrique a appris que le conseil d'administration de la Société nationale camerounaise de l'art musical va inscrire à l'ordre du jour de sa prochaine assise le sujet du boycott de certains artistes camerounais par la brigade anti-Sardinard. Yaoundé, Emmanuel Jumta, VOA Afrique.
Le Togo a adopté en août dernier son plan national de développement, le PND. Il s'agit d'un programme quinquennal qui doit être piloté sur la période 2018-2022. À travers le PND, le Togo s'est donné comme priorité de transformer l'économie pour une croissance de 7,6% à l'horizon 2022. De Lomé, les précisions de notre correspondante Kay Lawson.
La transformation de l'économie togolaise est d'actualité. Le plan national de développement PND dont le pays s'est doté est structuré autour de 3 axes stratégiques. Kanka Malik Natchaba, conseiller du président togolais, en charge de la cellule présidentielle d'exécution de suivi des projets prioritaires.
Le premier axe, c'est la mise en place d'un hub logistique d'excellence et d'un centre d'affaires de premier ordre dans la sous-région. Le deuxième axe, c'est la mise en place de pôles de transformation agricole, manufacturière et minière. Et le troisième axe, c'est le renforcement des mécanismes d'inclusion sociale. Donc, ces trois axes interdépendants concourent à la création d'emplois et aussi la réduction de la pauvreté.
Concernant le deuxième axe stratégique relatif notamment au secteur agricole, des acteurs estiment qu'il faut mettre l'accent sur la transformation agroalimentaire. Ismaël Tanko, jeune entrepreneur et producteur de purée de tomates.
Un produit agricole vendu tel quel n'apporte pas vraiment beaucoup de valeur ajoutée au pays et à l'agriculteur. Donc à mon avis, cette contribution du PND là, il faut nécessairement qu'elle aille dans le sens de promouvoir plus d'unités de transformation, plus d'usines de transformation de nos produits agricoles.
65% du financement de ce plan de développement vont provenir du secteur privé à travers des partenariats publics-privés. Pour sa participation à ce plan, le secteur privé togolais scrute des projets productifs, nous dit Germain Meba, président de la Chambre du commerce et d'industrie du Togo.
Le secteur privé est en train de chercher un ensemble de projets productifs. C'est gagner de l'argent. Et pour cela, nous cherchons à voir des projets porteurs.
Dans le cadre de ce PND, le gouvernement togolais se tourne vers des pôles bancaires pour le financement de certains secteurs, notamment l'agriculture, les infrastructures et l'énergie. Le financement de la centrale thermique de Lomé de 50 MW sera mobilisé par des banques avec pour chef de file Ora Bank Togo. Binta Ndoye Touré, directrice générale d'Ora Group, revient ici sur l'accompagnement de son institution.
Le secteur de l'énergie est stratégique pour nos pays de l'Afrique. Le secteur des infrastructures, toute chose aujourd'hui qui permettra à l'Afrique de mieux se développer.
Grâce au PND, le Togo espère créer 500 000 emplois sur 5 ans et réduire l'indice de pauvreté monétaire à 44,6. L'autre résultat attendu à l'horizon 2022 est de porter le taux de croissance de l'économie à 7,6%. Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Retour sur les échanges Trump-Macron, le président américain Donald Trump a une nouvelle fois critiqué la proposition d'Emmanuel Macron de créer une armée européenne quelques jours après avoir jugé très insultants les propos de son homologue français sur la création d'une telle force militaire, une proposition qu'appuie aussi la chancelière allemande Angela Merkel. Par ailleurs, le président Trump menace de taxer davantage les vins français. Sur le ton jugé trop dur, adopté par Donald Trump depuis son retour de Paris le week-end dernier, Abdelrahman Dia a joint le politologue Jean-François Seznec.
Honnêtement, je ne pense pas que ce soit une stratégie. J'ai bien peur, malheureusement, que le président Trump réagisse impulsivement sans avoir vraiment de stratégie. Alors, dans sa tête à lui, si vous voulez, il a une stratégie au sens où il essaye de forcer les Européens à augmenter leur contribution au budget de l'OTAN. Et ça, c'est tout à fait nécessaire. Mais sa façon de le faire à lui, c'est d'insulter les gens, si vous voulez, et essayer de créer une peur en Europe que les États-Unis ne supporteraient pas vraiment l'Europe, sauf si l'Europe continue à travailler avec les États-Unis, en fait, à donner de l'argent à l'OTAN.
La chancelière allemande Angela Merkel a un peu rejoint le président Macron sur cette idée d'une armée européenne. C'est une crainte qui se justifie que peut-être les États-Unis pourraient lâcher l'Europe?
Non, je pense que c'est une crainte réelle. Hein. L'administration actuelle aux États-Unis n'est pas du tout favorable à un support des alliés en Europe parce que je trouve que c'est une perte d'argent et il a en partie raison, hein, que les alliés ne font pas les efforts nécessaires et sont trop dépendants des États-Unis. Donc ils veulent absolument, les Américains veulent changer ça, mais du coup les Européens décident que bah, peut-être qu'il faudrait qu'on soit plus Européens directement et moins contrôlés par les Américains.
Et le président Trump a ironisé un peu sur l'occupation allemande et également menacé de taxer les vins français. Qu'est-ce que cela peut avoir comme conséquence dans les rapports entre la France ou l'Europe de façon générale et les États-Unis?
À court terme, je ne pense pas que ce soit très important. Je pense que les gens savent très bien et tout le monde se rend compte que le président américain est très impulsif et qu'il utilise des phrases très fortes pour essayer d'obtenir un petit peu, de bouger un petit peu la politique des autres pays. Mais à long terme, c'est quand même beaucoup plus grave parce que ça veut dire qu'effectivement, les Européens commencent à se poser beaucoup de questions sur l'alliance avec les États-Unis et vice-versa. Et je pense qu'effectivement, à long terme, ça va affaiblir les relations entre les deux continents.
Et ça va profiter à qui ? À la Russie, à la Chine ?
Bien sûr, ça va profiter à la Chine et à la Russie, certainement.
C'était Jean-François Seznec de Georgetown University, ici à Washington. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Greg Burns. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.